Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Des bassins plus larges et plus profonds, des zones d'ombre pour permettre aux orques et aux dauphins de se cacher, des vagues et des cascades pour leur éviter de trop s'ennuyer. Voici quelques-unes des nouvelles règles de fonctionnement que vont devoir appliquer les quatre delphinariums français. Le texte a été publié il y a quelques jours au journal officiel, il avait fait l'objet d'un consensus avec ces établissements. Sauf qu'au dernier moment, semble-t-il, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, y a ajouté une double disposition, l'interdiction de la reproduction de ces mêmes orques et dauphins, ainsi que de l'échange de ces animaux d'un delphinarium à un autre, ce qui devrait conduire à terme à la disparition de ce type de structure. Cette affaire renvoie plus largement à la question de la captivité des animaux sauvages et au statut des parcs zoologiques. Ces derniers ont considérablement évolué au fil des années. Ils revendiquent désormais un rôle dans la conservation des espèces et dans l'éducation du public à la biodiversité. Le bien-être animal fait par ailleurs partie de leurs obligations, mais c'est justement au nom de ce bien-être que leur existence est contestée et parce que l'animal sauvage n'a pas vocation a priori à vivre enfermé. Alors l'arrêté interministériel sur les delphinariums crée-t-il un précédent en la matière? Les zoos sont-ils en voie d'extinction? C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Anne-Caroline Prévost, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle. Vous venez de publier avec Cynthia Fleury, enfin c'est un ouvrage sous votre co-direction, Le souci de la nature aux éditions du CNRS, dans lequel il y a un chapitre qui est consacré justement à cette question des parcs zoologiques.
Oui,
pour discuter avec vous, Florian Sigrond-Boubel, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur agronome, vous êtes chargé de mission à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, spécialisée dans le bien-être animal.
Tout à fait.
Et puis notre troisième invité, il est au téléphone depuis le zoo de la Palmyre à Royan, où se tient l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association Française des Parcs Zoologiques. Il s'agit de Pierre Gay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général du bioparc de Douai-La Fontaine, ça se trouve dans le Maine-et-Loire, et par ailleurs du zoo des Sables d'Olonne qui se trouve en Vendée. Petite question d'ailleurs pour commencer, c'est quoi la différence entre un bioparc et un zoo?
Non, la différence c'était un choix de ma part. J'ai passé 56 ans de ma vie dans un parc zoologique. J'avais 9 ans quand mon père a créé ce parc et j'en ai 65 aujourd'hui. Et il y a 25 ans, j'avais des grandes aspirations pour approcher ce parc de la nature. Je voyage beaucoup pour essayer de venir en aide à des populations humaines, d'ailleurs souvent, qui sont aussi menacées que les animaux qu'elles côtoient. Et j'avais envie de montrer que notre parc est un parc de la vie. Bioparc, ça veut dire ça. Et c'était une volonté. Et j'ai déposé ce nom et je l'ai utilisé seulement il y a 5 ans ou 6 ans quand j'ai pensé qu'on en était digne.
Alors ça traduit sans doute aussi une évolution dans la perception et dans la façon dont sont aujourd'hui organisés les parcs zoologiques. On va avoir l'occasion d'évoquer un certain nombre de questions sur ce sujet, la question du bien-être animal bien entendu, la question de l'information et de la pédagogie auprès du public et puis celle de la conservation des espèces. Mais je voudrais commencer par une question peut-être un petit peu plus d'ordre général, d'ordre éthique. Est-ce que vous considérez les uns et les autres comme une forme d'anomalie dans l'absolu que de voir des animaux sauvages en captivité? Anne-Caroline Prévost.
Alors si on parle de conservation des espèces et des écosystèmes et de la biodiversité en général, on peut dire que oui, c'est une anomalie, puisque actuellement on pense quand même que les humains font partie de la biodiversité, ils n'en sont pas séparés, et le fait même que des êtres humains rendre d'autres êtres vivants captifs est quelque chose qui est un peu incompatible avec cette idée-là.
Florian Sigrond-Boubel.
Oui, moi je suis assez d'accord. On peut estimer que c'est une anomalie de trouver des animaux sauvages vivants en captivité. Je vais donner un exemple. Parmi ces animaux, ils vivent vraiment, donc ce sont des populations qui sont définies à l'échelle européenne et ils sont transportés de parc en parc, mais on voit certaines naissances d'animaux albinos, d'animaux, on va dire, avec des anomalies génétiques. Et ces animaux, dans la nature, ne survivraient pas parce qu'ils ne pourraient pas atteindre l'âge adulte. Alors que dans les parcs zoologiques, ces animaux, finalement, ce sont les animaux stars, les animaux rois qui font vraiment le bonheur de la communication.
Alors, on va voir quand même justement si les parcs zoologiques ne peuvent pas contribuer à la conservation de ces espèces et si ce qui peut relever d'une anomalie d'ordre général là peut être justifié aujourd'hui. Pierre Gay, sur cette question.
Oui, mais en fait, il faut déjà reprendre les choses de façon plus générale et historiquement. Les eaux ont d'abord été l'apanage des riches qui ont créé des ménageries. C'est après la révolution, les révolutions, c'est devenu des choses qu'on avait à disposition du peuple. Il fallait montrer l'exotisme et c'est, il fallait montrer la sauvagerie de l'animal face à la sagesse humaine. C'était ça, on les mettait dans les cages avec des barreaux du béton. Moi, je sais pas si j'ai une chance d'être un peu plus vieux, mais j'ai passé toutes ces années, et j'ai vraiment vu l'évolution des parcs zoologiques. Et j'ai vu ces endroits qui étaient des ménageries devenir des endroits où on se soucie maintenant de la conservation de ces espèces menacées. Il y a encore, bien entendu, il y a encore des problèmes, il y a encore des défauts, comme ceux que vous mentionnez. Moi, je suis jamais très heureux quand je vois certains de mes collègues communiquer sur des phénomènes aberrants. On peut l'appeler comme ça, si vous voulez. Mais globalement, cette communauté évolue et maintenant, les parcs zoologiques se sont donné des missions qui sont extrêmement contrôlées. Je suis un tout petit peu à l'origine de la création de l'Association des parcs zoologiques européens. On a vraiment fait beaucoup d'efforts depuis quelques années et on fait notre mieux. Enfin voilà, mais je suis parti prêt à la discussion. Je suis intéressé pour entendre les arguments de mes collègues sur le plateau.
Et bien, qu'on va entendre dès à présent. Enfin, on a déjà commencé à entendre des petites choses à ce sujet. Alors, la question peut-être du bien-être animal qui est celle, a priori, qui provoque le plus de critiques de la part de ceux qui s'opposent à la question des parcs zoologiques. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, en tout cas, il y a un vrai progrès qui existe aujourd'hui dans les zoos, que, en tout cas, cette question du bien-être animal, elle est vraiment prise en compte par ces établissements. Florian Sigrand-Boubel.
Forcément, c'est un point qu'ils prennent en compte. C'est défini dans la directive européenne, la directive zoo. Ça fait clairement partie des missions, la présence du bien-être animal. Et après, ça dépend comment on définit le bien-être animal aussi. Pour moi, un animal en captivité qui vit dans des conditions de bien-être, ça veut dire une cage qui permet de répondre aux besoins biologiques, aux besoins physiologiques, aux besoins comportementaux. Or, pour bon nombre d'espèces qu'on trouve dans les parcs zoologiques, c'est très difficile, voire même impossible, parce que on est sur des volumes ou sur des surfaces qui ne correspondent pas aux surfaces dans lesquelles ils vivent à l'état sauvage. Donc après, on va me dire, oui, mais si on les relâche, et probablement qu'on en parlera, il y a un impact de l'homme sur ces populations. Mais là, parler de bien-être animal en parc zoologique, moi je n'y crois pas, mais par contre, il faut noter que les parcs zoologiques jouent sur ce créneau bien-être animal et font des efforts significatifs.
Mais vous évoquez la directive européenne zoo qui date de 1999, je crois. Est-ce qu'elle établit justement des normes précises en termes de surface mise à disposition des animaux en fonction, j'imagine, des espèces?
Dans le contenu du texte qui a été transcrit en 2004 dans un arrêté, on ne prévoit pas espèce par espèce, on prévoit principe par principe. On retrouve la conservation, on retrouve l'éducation, on retrouve la conservation, mais on ne définit pas précisément en termes d'infrastructure ce qu'il faut par espèce, par catégorie d'espèce. Et ce qui est finalement assez amusant, c'est que tout à l'heure en introduction, on parlait du cas des delphinariums. Ce texte, finalement, lui, eh bien, vu que ce sont des catégories de population particulières, eh bien, on définit dans le texte, eh bien, des normes, des volumes, des surfaces où les animaux doivent s'ébattre. Mais on ne peut pas le faire pour toutes les espèces.
Il y a un problème de définition des normes aujourd'hui, Anne-Caroline Prévost?
Probablement. Mais d'une façon générale, je rejoins ce que disait notre collègue, les zoos ont énormément évolué dans l'histoire. Donc, et depuis, de plus en plus, le bien-être animal, certes, est pris en compte, certes parce que c'est réglementaire, mais aussi probablement avec un souci croissant des gestionnaires et de parcs zoologiques de concilier à la fois bien-être animal et puis présentation au public pour des enjeux de conservation et d'éducation, donc on en reparlera probablement.
Un souci qui répond d'ailleurs à une demande du public, à une demande forte du public. Je sais que vous avez beaucoup, justement, vous travaillez sur cette question du public. Est-ce que ça ressort des préoccupations des gens qui vont dans les parcs zoologiques?
Les gens qui vont dans les parcs zoologiques, ils y vont pour voir des animaux. Mais ils y vont pour voir des animaux en bonne santé et dont ils ont l'impression qu'ils vont bien. Donc c'est quelquefois un petit peu contradictoire parce que pour qu'un animal aille bien en enclos, il faut que l'enclos il soit grand, il faut que l'animal il soit en groupe quand c'est une espèce sociale, et puis qu'il ait des endroits pour se cacher, etc. Et donc les gens ne les voient pas. Donc quelquefois, et c'est un peu ça l'enjeu de toute la gestion du parc zoologique, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre un animal en bonne santé et puis un animal qui peut être vu par le public pour à des fins d'éducation probablement, beaucoup.
L'idée, Pierre Guay, c'est quoi ? C'est de concilier à la fois les attentes du public qui vient pour voir des animaux et les questions de bien-être animal, ou est-ce que vous considérez qu'il faut mettre en, d'abord comme priorité le bien-être animal et que le public vient après ?
Écoutez, j'ai écrit quelques bouquins où j'ai vraiment exprimé ça, c'est que mon métier, c'est vraiment de concilier le bien-être animal et le plaisir des visiteurs. Ça s'exprime de différentes façons, et je crois qu'il faut surtout pas compter sur les visiteurs, malheureusement, quelquefois, pour faire évoluer les choses. Et je pense qu'actuellement, l'évolution vient surtout des personnels des parcs zoologiques qui ont intégré, depuis plusieurs dizaines d'années, des biologistes, des vétérinaires, des comportementalistes, et qui ont fait vraiment évoluer la profession. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un de positif. Je vois les choses évoluer, et j'essaie de voir ce que je peux faire avec un outil comme celui-ci, et c'est à ça que je me consacre. Mais voilà, c'est dans ce sens-là que vont les choses, à mon avis, aujourd'hui.
Le bien-être animal et les leviers qui permettent d'améliorer ce bien-être, ce sont lesquels, Pierre Guay ? Est-ce que c'est avant tout une question d'espace qui est offert aux animaux, ou bien est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui permettent ?
Ce n'est pas suffisant, on parle d'enrichissement beaucoup. Vous savez, les soigneurs animaliers maintenant passent par des écoles, ils ont des formations, on leur apprend à enrichir les enclos. Les animaux doivent être stimulés par des odeurs. Enfin, l'idée, évidemment, ce qu'on essaie, nous d'ailleurs, de reproduire notre parc zoologique, c'est le mélange d'espèces. Et quand on peut pas mélanger des prédateurs et des proies, évidemment. Mais de mélanger des espèces, c'est intéressant parce que les animaux sont stimulés en permanence, retrouvent de nouvelles espèces dans leurs enclos. Mais l'enrichissement, ça passe par un milieu adapté à, l'enrichissement adapté à l'espèce. L'enrichissement pour un fennec, c'est pas le même que celui pour un animal qui vit dans une forêt tropicale, si vous voulez. Donc, effectivement, il faut s'efforcer de se rapprocher, non pas de la nature, parce qu'on se rapproche jamais de la nature, mais s'efforcer de recréer des micro-écosystèmes adaptés au bien-être des espèces qu'on protège et qu'on héberge.
Qu'est-ce que vous pensez sur le fond de la nature de ces efforts-là, c'est-à-dire d'essayer de recréer des écosystèmes, comme nous le dit Pierre Guay, Florian Segrande-Boubelle ?
C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont réalisés au niveau de l'enrichissement. L'objectif, finalement, c'est d'éviter l'ennui et la frustration des animaux dans des espaces qui leur sont, on va dire, petits. Après, il y a des efforts qui sont réalisés, mais est-ce que c'est suffisant ? Je me pose vraiment la question.
Mais est-ce que vous avez, par exemple, des contre-exemples de parcs zoologiques que vous avez peut-être pu visiter, où vous vous rendez compte qu'au contraire, on est très loin de ces bonnes intentions ?
Je pense qu'on ne peut pas mettre tous les parcs zoologiques dans le même sac et dire il y en a qui font bien les choses et d'autres qui ne les font pas. Il y a des efforts qui sont réalisés. Après, ça dépend également du type de parc zoologique. On se rend compte qu'il y a des parcs zoologiques qui appartiennent à des municipalités où il est assez difficile de pouvoir avoir l'argent pour mettre aux normes ces parcs. C'est notamment le cas du zoo de l'Orangerie à Strasbourg ou du zoo de Lyon du parc de la Tête d'Or. Donc, il y a vraiment différents parcs, différents types de parcs et différents types d'efforts qui sont réalisés. Et moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que finalement, ce sont les parcs qui attirent le plus de visiteurs qui finalement ont le plus de moyens pour, on va dire, accéder au bien-être animal.
Et oui, mais c'est parce que là, on est vraiment face à une forme de paradoxe, Anne-Caroline Prévost. C'est-à-dire que pour que des parcs zoologiques puissent aussi mettre en place des systèmes de meilleure vie pour les animaux, avec davantage d'espace, avec une diversification aussi de ces espaces, il faut de l'argent. Pour qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait du public, et pour qu'il y ait du public, il faut que les gens aient envie de venir et aient la possibilité de voir un maximum d'animaux, non ?
Alors, c'est pas forcément. Le levier n'est pas forcément d'avoir un maximum d'animaux à voir. Donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut travailler. Et puis, je voudrais revenir un peu sur.
Qu'est-ce qui fait venir les gens, alors, dans les parcs zoologiques ?
Alors, les animaux, les gens, ils viennent pour voir des animaux, ça, c'est clair. Mais en fait, quand ils sont dans les parcs, ils ne font pas que voir des animaux. Ils voient aussi, ils vivent quelque chose, et ils le disent eux-mêmes, hein, ils vivent une espèce d'expérience de quelque chose où ils sont ailleurs que dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est pas uniquement grâce aux animaux dans les enclos et aux micro-écosystèmes qui sont créés dans les enclos, mais c'est aussi grâce à tout l'environnement qu'il y a à l'extérieur des enclos. Et toute la végétation qui pousse sur les allées, ou qui est plantée ou managée aussi dans les allées, mais tout aussi des animaux. La faune commune, les oiseaux communs quand on est dans les villes, et qui en font beaucoup plus de bruit finalement que les animaux captifs. Et finalement, les visiteurs qui viennent dans ces parcs attirés par des animaux captifs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou qu'ils cherchent à voir, ils vivent une expérience, même s'ils n'ont pas vu ces animaux, s'ils n'en ont pas vu beaucoup, ils vivent une expérience qui est positive pour eux parce qu'ils ont été autre chose.
Alors, cela dit, c'est vrai que cette approche-là, c'est une approche dont on a beaucoup entendu parler il y a 3 ans, au moment de la réouverture du zoo de Vincennes, où l'idée, c'était justement de proposer une autre façon de voir les animaux. Écoutez ce qui en était dit à l'époque, au moment de la réouverture. On est le 12 avril 2014.
170 espèces d'animaux, un parc divisé en 5 zones géographiques de la planète. Le zoo de Vincennes a rouvert ses portes après 3 années de travaux. L'objectif de sa nouvelle configuration, inciter le visiteur à découvrir l'animal dans son milieu.
On a cherché à reconstituer le plus possible les milieux naturels des animaux. L'idée, c'était vraiment d'être basé sur l'immersion du visiteur et de partir du principe que c'est le visiteur qui est invité au pays à la rencontre de l'animal et qu'il se positionne en acteur de cette rencontre et donc qu'il parte à la recherche de l'animal et en observateur de l'animal. Et non plus que l'animal lui soit offert à sa vue.
Quitte à parfois patienter de longues minutes sans voir des animaux très attendus, comme le loup ibérique ou le lion africain.
Le but premier, c'est le bien-être animal, et donc c'est d'offrir à l'animal les conditions d'expression de ses comportements naturels, et donc de lui faire et concevoir des enclos qui vont lui permettre d'avoir le caractère sauvage de l'animal le plus représentatif possible.
Voilà, reportage donc daté du 12 avril 2014 du site d'actualité Actu Environnement. C'était donc la réouverture de Vincennes et on entendait dans le commentaire Anne-Caroline Prévost quitte à ne pas voir certains animaux. Est-ce que ça fait partie aussi de la pédagogie aujourd'hui des parcs zoologiques d'expliquer aux gens que ils vont aller dans un endroit où ils ne verront peut-être pas les animaux en captivité?
Je ne sais pas si ça fait partie des messages officiels et bien dits des parcs zoologiques, mais en tout cas. Si les visiteurs ne voient pas des animaux qu'ils cherchent à voir, d'abord ils vont les chercher quand même, donc ils vont avoir un acte positif d'aller chercher l'animal. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'ils vivaient vraiment d'autres choses qu'ils imaginent pas en fait. Il faut arriver à leur faire dire pour qu'ils expriment qu'ils ont vécu d'autres expériences, ils ont entendu des bruits, ils ont été dans un endroit où il y avait du monde. Quelquefois, les bruits des autres personnes et des autres visiteurs les ont gênés, mais d'autres fois, ça les a vraiment intéressés, parce que justement, celui-là, il avait vu l'animal. Donc, ils allaient le chercher, ils avaient du contact social avec des gens qu'ils connaissaient pas, etc. Et ça, ça fait partie de quelque chose qui s'est passé dans cette période de visite qui est venue parce qu'ils voulaient voir de l'animal et qui s'est beaucoup enrichi de beaucoup d'autres choses, en fait.
Pierre Gay.
Oui, je reviens très vite sur l'enrichissement. L'enrichissement des parcs, ça coûte rien. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec mon père, alors j'ai la chance de vivre à la campagne, mais j'ai passé des semaines, sinon des mois, à ramasser des cailloux dans la nature, arracher des plantes sauvages et des arbustes et les planter. Et on s'est rendu compte très vite que des animaux qui semblaient ne pas devoir tolérer de la végétation dans leurs enclos parce qu'on leur avait jamais offert, au bout de 3 ou 4 ans, l'enclos est totalement rempli et on a pratiqué depuis toujours le jardinage soustractif. C'est-à-dire que pendant 25 ans de ma vie, j'ai fait le tour avec un sécateur et je coupais la branche qui permettait aux visiteurs d'apercevoir l'œil du tigre ou la queue du léopard. Alors je me suis battu avec mon père. Lui, c'était pas sa conception, il était d'une autre époque. Mais aujourd'hui, c'est vraiment reconnu par nos visiteurs et on a vraiment cette joie d'entendre nos visiteurs en sortant dire « on n'a pas vu vos tigres ». On est désolé, on les a aperçus dans les brebous, mais on sait qu'ils sont bien là où ils sont. Et les visiteurs ont le comportement même des visiteurs évolués, c'est ça qui est formidable. Et c'est vers quoi on doit tendre, c'est aussi apprendre à nos visiteurs à percevoir la vie sauvage différemment et savoir qu'un animal sauvage captif, il peut aussi être perçu comme un animal sauvage, qu'on doit un peu lui foutre la paix quand il a envie d'avoir la paix.
Cette approche-là, ça vous semble être une bonne approche, Florian Segrond de Boubel?
Là, finalement, moi, ce que je trouve, c'est que on arrive un peu à une forme de paradoxe. Il y a le visiteur qui vient, qui débourse des sommes importantes pour venir voir des animaux, et finalement, il les voit pas. Donc, pour moi, c'est finalement un plus, parce que ça veut dire que probablement, qu'on cache mieux les animaux parce qu'ils ont plus d'espace. Mais est-ce que ça suffira aux visiteurs à terme? Ça, c'est la question qui lui est posée, du coup.
Et comment est-ce que vous répondez, vous, à cette question-là?
Écoutez,
vous n'avez pas forcément de réponse sur le sujet, Pierre Gay.
C'est un problème d'éducation. Je pense que il faut. Depuis quelques années, on a vu se développer des animations dans les parcs zoologiques. Alors pour certains, c'est quelquefois des spectacles. Pour d'autres, ce sont des moments de rencontre. Et les soigneurs qui vivent au quotidien auprès des animaux sont là pour montrer les animaux, pour expliquer comment, pourquoi ils se cachent, où ils se cachent. C'est la façon dont on travaille avec quelques-uns de nos collègues. C'est la façon dont doivent évoluer ces établissements. C'est vraiment la façon dont ça évolue aujourd'hui, à mon avis.
Comment est-ce que vous qualifieriez, vous, la mission, Anne-Caroline Prévost, des parcs zoologiques? Est-ce que l'approche pédagogique, c'est l'approche qui vous paraît la plus essentielle aujourd'hui? Vous avez l'air, l'un et l'autre, et Florian Segrond Boubel et Anne-Caroline Prévost, un peu interloqués par mes questions. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Non, moi, je peux vous répondre sur les parcs, auprès des parcs zoologiques qui sont présents dans les villes. Parce que c'est avec eux, surtout, que j'ai beaucoup travaillé. Et Et dans les villes et dans les grandes villes où les citadins ont vraiment quand même de moins en moins l'habitude et l'opportunité d'entrer en contact avec la nature, les parcs zoologiques, pour moi, ils sont vraiment importants. Parce que justement, ils créent c'est des espaces qui créent cette opportunité. Alors vous allez me dire comme les parcs urbains, ou, par exemple. Mais voilà. Il se trouve que les parcs zoologiques, ils attirent un public qui est très très diversifié. Tout le monde va dans les parcs zoologiques, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau culturel. Ce que n'attirent pas tous les parcs urbains, par exemple. Donc, et ça, c'est vraiment une richesse. Et donc, à mon avis, pour que les parcs zoologiques évoluent bien, parce que leur mission première dans les villes, c'est une mission d'éducation, mais pas d'éducation à la conservation des espèces protégées qui sont montrées, mais plutôt une question d'éducation à la nature en général, ou ce que j'appelle une reconnexion des gens à la nature pour essayer de comprendre un peu qu'on fait partie du monde vivant, et qu'ensuite, une fois qu'on est sorti des parcs, on a envie de protéger ce monde vivant en général. Mais il y a beaucoup de choses à modifier et à faire évoluer dans les messages et dans la façon de faire et dans le design des parcs zoologiques pour que ça aboutisse à ça.
Ça veut dire que pour vous, s'il n'y avait pas finalement, prenons l'hypothèse qui est d'une absence de ces parcs zoologiques dans les villes, on y perdrait en compréhension de ce qu'est la biodiversité. Il y a par exemple plein de documentaires animaliers qu'on peut voir à la télévision et qui nous renseignent de manière assez précise sur ce qu'est la vie animale et la vie sauvage.
Ah, c'est pas ça. C'est que les parcs zoologiques, ils existent en ville. Et donc, soit on décide qu'on les ferme, soit on décide qu'on... On les fait évoluer pour qu'ils servent à quelque chose de plus riche que ce qu'ils disent actuellement, encore plus riche que ce qu'ils disent actuellement.
Est-ce qu'on peut dire quand même qu'en termes de sensibilisation du public à la question de la vie animale et de la vie sauvage, Florian Cigron-Boubelle, on peut leur concéder une forme d'utilité à ces parcs zoologiques?
Il y a des efforts qui sont faits, les messages qui sont mis en avant sont des messages qui sont d'ailleurs imposés dans la directive et dans l'arrêté. On demande expressément tel et tel point soit mis en avant sur chaque espèce. Après,
ça veut dire que sinon un parc ne pourrait pas recevoir, je sais pas, de licence ou d'agrément pour
En cas de contrôle, il pourrait avoir des problèmes, effectivement. Après, du coup, la question là, c'est sur le rôle pédagogique finalement de ces parcs zoologiques. Après, sur les delphinariums, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que sur 20 minutes de spectacle, quand vous regardez sur les delphinariums européens, il n'y a que 2 minutes du spectacle qui est consacré à la protection de l'animal sauvage, comment vit l'animal sauvage en captivité. Le reste du temps, eh ben, c'était sur les animaux à l'état captif. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur un animal vivant à l'état captif alors que le rôle du parc zoologique, c'est vraiment de parler de l'animal sauvage? Du coup, moi je trouve que oui, il y a un effort à faire d'un point de vue pédagogique, mais certains établissements y répondent, d'autres sont en voie.
Alors Pierre Gay, je ne vais pas vous faire forcément parler des delphinariums, mais qu'est-ce qu'on apprend quand on visite par exemple soit le bioparc de Douai-la-Fontaine, soit le zoo des Sables d'Olonne?
Je crois qu'on apprend le respect de la vie sauvage. On parlait tout de suite, là, ma collègue parlait de zoos urbains. De plus en plus, on voit se développer des hôtels à insectes dans nos établissements, des ruches éducatives, etc. Toutes ces choses-là permettent au public, en plus de la visite du zoo, de bénéficier d'une information sur la nature. On a chez nous depuis 10 ans un ancien animateur LPO qu'on peut pas taxer d'être un pro-zoo et qui prend beaucoup de plaisir à être chargé de l'éducation chez nous. Il y a vraiment fait de gros efforts de fait. La dernière campagne de l'Association européenne des parcs zoologiques s'appelle Let It Grow, qui est vraiment dédié totalement à la croissance et à la protection de la biodiversité européenne. Il y a de gros efforts, mais mes collègues d'ailleurs autour de vous, près de vous, sont d'accord pour le dire. Il reste des mauvais eaux, évidemment, malheureusement. C'est à nous de lutter. Je crois que c'est au public de les punir. C'est au public, en n'allant pas les visiter, en les dénonçant, d'empêcher qu'ils subsistent. Mais il y a beaucoup d'établissements qui font énormément d'efforts et qui ont des collections qui sont tout à fait dédiées à la conservation des espèces que nous abritons. Ça, c'est aussi important d'en parler, je pense qu'on va en parler bientôt, parce que c'est aussi un rôle très important aujourd'hui des zoos, si ce n'est leur rôle le plus important.
Alors justement, j'allais y venir sur ce rôle. Est-ce que vous considérez que c'est un rôle qui est encore suffisamment développé aujourd'hui, Pierre Gay, et qui surtout peut-être donne des résultats, puisque c'est finalement comme ça aussi qu'on peut évaluer l'intérêt de cette mission?
Ben je pense très franchement, et vraiment, je ferai pas de cadeau aux zoos, en l'occurrence, je pense très franchement qu'aujourd'hui, les parcs zoologiques sont devenus indispensables à la conservation de certaines espèces. Je voyage énormément, je soutiens des projets de conservation dans le monde entier, je vois l'état de la nature, je vois l'état de notre monde fini. D'ailleurs, c'est sans doute ça le vrai problème entre les mammifères marins et les mammifères terrestres. Les mammifères marins, ils vivent dans un monde qui semble infini, on peut pas les voir en captivité. accepter, c'est difficile pour beaucoup de gens. Alors que les mammifères terrestres, malheureusement, leur territoire se rétrécit. J'ai connu le Kenya il y a 40 ans, et ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est assez navrant. On sait qu'on va maintenant couper le Serengeti en deux. Enfin voilà, ces animaux terrestres vivent dans un monde fini, où ils sont extrêmement menacés. Et les zoos, en soutenant des projets, très souvent au travers des communautés qui vivent auprès de ces espèces, parviennent ou sont en train de parvenir à les sauver. On soutient un projet pour les condors des Andes en Argentine depuis 23 ou 24 ans. Cette association a réintroduit plus de 160 condors dans la nature. Les condors des Andes, c'est moins de 2000 individus dans la nature. L'an dernier, on a retrouvé en un an 30 condors empoisonnés et on en a réintroduit 14 dans la nature. Le différentiel, il est de 16 malheureusement, mais sans ces condors réintroduits, récupérés blessés ou nés dans des parcs zoologiques, la chute de la population sera encore plus importante.
Alors, il y a la question effectivement de la conservation des espèces et ensuite de la réintroduction de ces espèces dans ce qui est censé être leur milieu naturel. Florian Sigrond-Boubel, ça, c'est vrai que c'est vrai aujourd'hui la mission qui est mise en avant par la plupart des parcs zoologiques, qui est une mission qui est plutôt vertueuse, mais est-ce qu'ils la remplissent là aussi correctement?
Une nouvelle fois, c'est une mission qui leur est imposée et
après, c'est vrai que forcément, si ça marche.
Moi, je rejoins Monsieur Gay quand il dit que c'est vrai que l'état de la planète et la perte de biodiversité est un enjeu majeur et c'est vrai que les zoos ont un rôle à jouer. Par contre, de quel type de programme on parle? Il faut vraiment que ce soit des programmes qui se permettent à l'animal, à l'état sauvage, ou alors en réhabilitant des animaux captifs, si c'est possible de le faire, parce que pour certaines espèces, on n'est pas sûr que c'est possible de le faire. Mais il faut que ce soit au plus près des populations et forcément des animaux qui vivent à l'état sauvage. Mais cette conservation, finalement, moi j'ai un petit peu l'impression que pour certains parcs zoologiques, c'est un pansement ou c'est une manière de justifier. Je vais vous donner.
C'est-à-dire que par exemple, faire de la conservation d'espèces dont l'état, dont le milieu naturel est en Afrique, mais de le faire en France, par exemple, c'est quelque chose qui vous paraît pas tout à fait normal?
Non, mais après, ça dépend comment sont réalisés ces programmes. Il y a des programmes de conservation in situ qui sont réalisés dans les parcs et des programmes de conservation ex situ qui sont réalisés là où vivent les animaux à l'état sauvage encore. Moi, juste, je voulais revenir sur la conservation et donner un exemple qui me paraît frappant. Le premier parc zoologique de France, le zoo de Beauval, entre 2009 et 2015, a investi 1,54 million d'euros pour des programmes de conservation, pour 45. Dans le même temps, en un an, pour telle ou telle attraction, on investit 13 millions d'euros pour une suite d'hôtels, on investit 7 millions d'euros pour agrandir certains enclos. Là, je trouve que finalement, parler de conservation, c'est un peu facile. Parce que il faudrait passer d'une obligation de moyens à des obligations de résultats.
Est-ce que c'est d'ailleurs à chaque établissement de décider le volume du budget qu'il va consacrer à la conservation des espèces, Pierre Gay?
Oui, je pense. On n'a pas d'obligation réglementaire, encore une fois. C'est quelque chose qui se définit en fonction du budget, évidemment, de l'entreprise, forcément. Et à côté de ça, nos associations, que ce soit l'association française ou l'association européenne, se débrouillent aussi pour récolter des fonds, pour soutenir aussi des projets au niveau professionnel. Mais je ne sais pas si on peut faire trop proche à Beauval. C'est un parc exceptionnel. J'ai moi-même travaillé pendant de longues années avec le responsable scientifique. On a voyagé sur beaucoup de projets. On a mis au point ensemble un projet de sauvetage du Ouistiti à Patte Grise en Colombie, qui est un projet exceptionnel qui va sauver cette espèce. On peut pas leur faire ce reproche, bien sûr que les chiffres peuvent être comparés, j'en sais rien, moi je suis pas à leur place et c'est pas moi qui gère leur budget. Pour notre part, je sais qu'on investit chaque année, ça représente un gros effort pour une entreprise privée. Je m'investis aussi personnellement énormément et je sais que ce que nous faisons et ce que font mes collègues est extrêmement constructif et va servir à sauver certaines espèces. Ce que je voudrais rajouter aussi, on parlait tout de suite de conservation ex situ, in situ. Alors la conservation ex situ, c'est des animaux sortis du milieu, qui sont donc élevés en parc zoologique. Ces animaux sont pas tous destinés à être introduits. Ils sont destinés à maintenir des populations captives, et ces populations captives peuvent servir de banque de gènes, effectivement, mais ils sont aussi là pour avertir le public, pour l'éduquer, pour récolter des fonds, pour soutenir des projets dans la nature, in situ.
Donc ça veut dire qu'il y a certains animaux finalement dont la présence va servir à financer d'autres programmes de conservation des espèces, c'est un petit peu ça.
J'ai eu cette chance incroyable au début de ma vie professionnelle de rencontrer dans les années 70 des gens qui m'ont beaucoup inspiré, dont Michel Terrasse, Alain Mourin-Dubourg, enfin voilà, des gens qui sont vraiment dans la protection de la nature chez nous. Et puis j'ai rencontré aussi des gens de parcs zoologiques, Jean-Marc Lernoux qui dirigeait à l'époque le zoo de Mulhouse, et William Conwell, directeur de zoo de New York, Gérald Durel qui a créé le zoo de Jersey. Et c'est Jean-Claude Nouet, qui a créé la Ligue des droits de l'animal, qui était farouchement anti-zoo. On a discuté pendant des mois ensemble. Et tous ces gens m'ont appris beaucoup. Et on a surtout appris que la réintroduction, c'est pas forcément le but final. Ce qu'il faut, c'est sauver les écosystèmes. La nature, c'est une matrice très puissante. Elle va se sauver d'elle-même si on lui fout la paix. Vous voyez, si on lui la laisse tranquille. Donc la réintroduction, c'est peut-être ça le pansement sur une jambe de bois. C'est quand l'espèce a disparu et qu'on essaie de la réintroduire pour renforcer une population. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir.
Anne-Caroline Prévost.
Oui, en fait, les zoos tout seuls, enfin, je suis un peu d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais les zoos tout seuls, ils vont pas permettre de sauver la biodiversité. Et c'est pas en se focalisant sur quelques espèces à des fins de réintroduction qu'on va sauver la biodiversité. Le programme est beaucoup trop grave. En plus, on pourrait rediscuter des conditions de réintroduction. Réintroduire une espèce qui a disparu dans un milieu donné, ça peut marcher si et seulement si les conditions, enfin, tout le milieu a changé pour que enfin cette espèce puisse disparaître de nouveau, par exemple, et puis pour beaucoup d'autres choses. Mais du coup, en fait, les zoos, à mon avis, c'est une porte d'entrée pour plein d'autres questions. Si les parcs zoologiques peuvent, enfin, et la plupart des parcs zoologiques probablement pensent comme ça, c'est-à-dire que c'est une porte d'entrée pour faire se questionner les gens et pour que les gens, les visiteurs, quand ils sortent de ces zoos, ils repartent avec plein de questions sur leur propre place dans le monde naturel, leur propre place par rapport aux animaux qu'ils ont vus en captivité, par exemple, mais aussi sur leur propre place par rapport à la biodiversité en général, sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que eux ils ont comme comportement, comme perception, comme usage, comment est-ce qu'ils pourraient modifier quelque chose dans leur vie de tous les jours, dans leur façon de se comporter ailleurs que dans les parcs zoologiques, etc. Et ça, à mon avis, c'est un très très gros défi que les parcs zoologiques, dont les parcs zoologiques doivent s'emparer. Et s'ils s'en emparent, à ce moment-là, à faire quelque chose de vraiment très bien.
S'ils s'en emparent, parce que vous considérez donc que pour l'instant, ils ne sont pas emparés de ça.
Pas tout à fait. Il y a encore des choses à faire,
Ça reviendrait à quoi? À inverser peut-être le rapport qui peut être celui entre le public et les animaux dans les parcs zoologiques? Ça pourrait être quoi, justement? Prendre en compte ces questionnements?
Alors, je pense qu'il n'y a pas encore de solution vraiment de solution universelle, sinon ce serait déjà fait. Il faut avancer ensemble. Donc, je suis sûre que tous les parcs zoologiques ont des initiatives qui sont des petites initiatives progressives qu'ils essayent de tester. Et je lance un appel pour que ces initiatives soient relayées, discutées, explorées et évaluées pour voir si ça marche ou pas, partagées entre les différents parcs zoologiques avec des chercheurs, toute la communauté qui a envie de faire progresser les choses, quoi.
Florian, c'est grande nouvelle.
Oui, je pense qu'il y a un travail de vulgarisation un petit peu aussi des informations qui sont données. Quand on parle du statut de protection par l'UICN de telle ou telle espèce, on retrouve le statut sur l'affiche qui présente l'animal, mais finalement ça nous est pas expliqué, c'est pas expliqué aux visiteurs. Donc là, peut-être un travail de vulgarisation du message.
Et puis surtout, pourrait passer quoi par exemple par davantage de médiation, c'est-à-dire de présence peut-être de personnes qui expliquent ce qui se passe. C'est vrai que quand on va dans un certain nombre de parcs zoologiques, on est relativement seul quand on est dans le public. Il y a des panneaux, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges.
Il y a de plus en plus d'ateliers qui sont proposés pour de nourrissage d'animaux. Mais après, dans ce cas-là, le contenu du message doit porter sur la protection de ces espèces, sur les menaces qui pèsent sur ces différentes espèces. Et tous les parcs zoologiques ne le font pas forcément. Principalement, la communication, ça va être voilà comment s'appelle cet animal, voilà comment il vit dans son milieu captif. Et moi, là, je trouve que c'est dommage parce qu'on perd véritablement un des rôles qui pourrait être un des rôles clés de ces parcs zoologiques. Donc, il y a un véritable travail à faire également pour mettre en avant les travaux qui sont réalisés sur ces programmes de conservation également. Parce que vous prenez toutes les pages des sites internet des parcs zoologiques, très très peu en parlent. Et c'est dommage parce que même s'ils investissent peu, ils pourraient quand même mettre ça en avant.
Pierre Gay.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'allais vous dire qu'au sein de notre association européenne des parcs zoologiques, on a des comités différents, un comité scientifique, comité recherche, éducation. Les éducateurs des zoos européens sont réunis il y a quelques semaines au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Ils font un travail énorme. Et très franchement, mais je l'entends en vous écoutant, c'est ce qui me fait plaisir. Vous avez conscience que les parcs zoologiques évoluent. Alors effectivement, c'est comme dans tous les, comme dans toutes les professions, il y a toujours des gens qui traînent un peu la patte et qui vont moins vite que les autres. Mais vraiment, c'est une profession qui évolue. Elle a incorporé en son sein, des compétences nouvelles, des gens qui sont des amoureux de la nature et qui nous font évoluer et qui vraiment font bouger les choses. Je veux pas vous encourager à venir visiter le bioparc de Douai-la-Fontaine, mais j'aimerais. On essaie vraiment de se rapprocher de la nature. C'est vraiment un endroit où on rencontre des animaux. On a des gens. On travaille avec des communautés dont certains représentants sont là dans le monde entier. Certains représentants sont là pendant la saison touristique pour parler de l'expérience qu'ils ont avec notre collaboration. Et tout ça, ça participe vraiment du rôle positif que peut avoir un parc zoologique.
Est-ce que vous vous dites qu'avec l'arrêté interministériel, alors qui est sur les delphinariums et qui, s'il est maintenu, puisqu'il se pourrait qu'il y ait une procédure voilà juridique contre cet arrêté, mais à terme les delphinariums finissent par disparaître, est-ce que ça pourrait créer un précédent à votre avis pour l'ensemble des parcs zoologiques? Est-ce que c'est une hypothèse qui vous semble crédible et que vous craignez éventuellement? Pierre Gay.
Alors personnellement, j'y crois pas parce que ça serait remettre en cause des années de travail et je vois tellement de projets soutenus par certains de mes collègues ou par moi-même, des communautés entières dépendent de nous. Je peux vous assurer que j'ai une assistante qui travaille avec moi au jour le jour et qui est en permanence au contact avec notre fondation à Madagascar, l'autre au Pérou, l'autre en Argentine, l'autre en Mongolie, tout ça pour bosser avec des gens qui essaient de sauver leur nature. C'est pas la mienne. Moi, je défends pas. C'est pas les ours de Pierre Gay au Pérou ou les lémuriens de Pierre Gay à Madagascar. C'est vraiment la nature de ces gens. On essaie de les sauver qu'elles. Et ça serait vraiment un crime de priver ces gens-là de l'aide que peuvent leur apporter les parcs zoologiques, aussi bien en termes financiers, de soutien, de développement. Enfin, développement durable, c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Mais c'est un soutien durable. Depuis 20 ans, on est présent auprès de ces gens. Et parce qu'ils ont des animaux ou des raretés zoologiques ou floristiques chez eux, c'est pour ça qu'on les accompagne.
Florian Segrand-Boubelle, pour vous, cet arrêté interministériel sur les delphinariums, c'est quelque chose qui mériterait d'être étendu à l'ensemble des parcs zoologiques ou bien on est dans une problématique très spécifique qu'on peut difficilement étendre à l'ensemble des...
Là, sur les delphinariums, c'est assez spécifique parce que vraiment, on parle de ces cétacés captifs. Donc, c'était les orques et les dauphins qui ont fait le fonds de commerce du Marineland et d'autres parcs d'attractions pendant des années et des années. Et où là, finalement, c'est vrai que tout à l'heure, Monsieur Guy en parlait, pour les animaux vivants à l'état terrestre, on parle en deux dimensions. Pour les cétacés, on parle en trois dimensions. C'est pour ça qu'on avait demandé, quand on a travaillé sur le texte, à parler en volume et non pas en surface. Et c'est vrai que les volumes étaient moins de 1% par rapport au territoire dont bénéficie l'animal à l'état sauvage. Donc finalement, également, c'était décrié par ce qui s'est passé aux États-Unis, par un reportage qui est sorti. On est arrivé à une situation où on ne pouvait plus tolérer la présence de ces cétacés captifs en captivité, du coup. Et moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Après, de là à remettre en cause tout le travail des parcs zoologiques, je ne pense pas à court terme. Par contre, la directive et les textes qui encadrent ces parcs zoologiques vont être revus. Donc, de nouveaux efforts vont être demandés aux parcs zoologiques. Après, c'est également à chaque responsable de prendre ses responsabilité et de répondre à ses attentes et de montrer également qu'il y a un travail qui est réalisé et que c'est fait au nom de la préservation des espèces, mais pas forcément qu'au niveau de la conservation.
En tout cas, et pour conclure, Anne-Caroline Prévost, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion qui est menée dans les parcs zoologiques et que ces parcs tels qu'on les connaît aujourd'hui seront peut-être encore très différents d'ici 20 ou 30 ans parce que la réflexion aura abouti peut-être à d'autres formes de présentation des animaux sauvages. Je ne vous demande pas de m'expliquer à quoi ils ressembleront, mais...
C'est effectivement ce qui se passe pour une bonne partie des parcs zoologiques et c'est ce qui est encouragé, évidemment.
Voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Anne-Caroline Prévost, Pierre Gay et Florian Segrand-Boubelle. Pierre Gay, je rappelle que vous étiez au téléphone depuis La Palmyre où se tient l'Assemblée Générale annuelle de l'Association Française des Parcs Zoologiques. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à l'équipe du Grain à Moudre, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Jacques Hubert. Cette émission, vous pouvez la réécouter comme chaque jour sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Demain, nous consacrerons notre émission à l'actualité politique et plus précisément d'ailleurs au traitement médiatique d'une certaine formation politique, à savoir le Front National. Fallait-il considérer les membres du FN comme des invités comme les autres? Ce sera une question que nous poserons un certain nombre de journalistes. Ce sera à partir de 18h20 demain.